Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
Iconic Business, c'est un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La déferlante intelligence artificielle, vous ne pouvez pas être passé à côté. C'est presque devenu obsessionnel. Le luxe s'en est emparé entre défiance et nouveaux territoires, entre prudence et opportunité, entre temps long et course effrénée. Émission un peu spéciale aujourd'hui avec des experts du secteur. Les hommes défilent cette semaine à Paris, la fashion week masculine, automne, hiver, tout ce qu'il fallait retenir, c'est également dans Iconic Business. Et je vous le disais, émission un peu spéciale, car je retrouverai dans quelques instants Eva Jaco et Nathan Cocampo, de retour de New York et de Davos, retour d'expérience luxe. C'est Iconic Business, bienvenue. Émission donc un peu spéciale cette semaine avec un parterre d'invités, un parterre de spécialistes, tant le sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle est stratégique pour le luxe, avec Nathalie Rémy, partenaire luxe chez Bain. Bonjour.
Bonjour.
Éric Brionne, directeur général du journal du luxe et auteur notamment de Luxe et Digital, mais notamment,
bonjour.
Et Frédéric Ross, président et fondateur d'Imki, bonjour.
Bonjour.
Éric Brionne, c'est devenu essentiel de dire qu'on fait de l'IA, c'est un peu devenu le mot magique, mais on est au-delà du marketing, c'est loin d'être superficiel finalement.
Ah non, c'est loin d'être superficiel, le luxe prend un temps d'avance sur le sujet. Alors, on se rappelle en 2016, il était ringard en termes de digital,
oui.
Puis il y a eu le Web 3, où il est voulu être à l'avant-garde. Et c'est la même chose sur la question de l'IA. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se donne une mission presque civilisationnelle. Pour moi, c'est un peu le docteur Frankenstein avec sa créature.
Attention à la libération de la créature.
Exactement, c'est ça. Il veut un peu canaliser l'IA. Il se donne une très belle mission. C'est que l'IA soit à sa place et qu'il ne remplace pas l'humain. Protéger la créativité. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les CEO du luxe sont extrêmement bavards sur le sujet. Cyril Vigneron pense la société de demain, la société IA, où peut-être 50% des gens ne travailleront plus, comme la société romaine, et se dit le luxe peut être un formidable curateur pour intéresser et cultiver les gens.
Mais
et
attention au bavardage, parce qu'il faut rentrer dans le concret.
Exactement. Mais il y a du concret, et il y a beaucoup de concret, ça va très vite, parce qu'en fait, l'IA est déjà dans le luxe depuis, on va dire, au moins 5 ans.
Eh bien, justement, on va voir ça, Nathalie Rémy. L'intelligence artificielle ouvre de nouveaux territoires pour le luxe, vraiment des opportunités. Mais finalement, on se dit qu'il y a eu un faux départ, et là, on est en plein dedans.
Oui, alors, on parle d'intelligence artificielle, je voudrais juste marquer
un
peu...
Oui, il y a plusieurs tiroirs, plusieurs couches, on verra notamment avec Frédéric Rose également.
Il y a la différence entre l'intelligence artificielle qui, en fait, est déjà présente dans le luxe depuis des décennies, et l'intelligence artificielle générative qui est arrivée, en fait, dans nos vies avec ChatGPT.
Tout à fait.
Et qui, depuis, ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans le luxe, comme dans beaucoup d'autres industries, en fait, l'impact de l'IA et de l'IA générative peut s'observer à chaque étape de la chaîne de valeur. Et dans le luxe, depuis les métiers créatifs jusqu'aux métiers de la distribution, en passant par la fabrication, le merchandising, tout le planning, le forecasting, le marketing évidemment, puis behind the scene, toutes les fonctions support qui permettent à l'entreprise de fonctionner. On peut parler d'automatisation dans la finance, de gestion des fournisseurs dans les achats, de gestion des collaborateurs dans la RH, etc.
Donc et c'est là où on prend la mesure aussi des inquiétudes quant au remplacement des métiers et donc à l'impact de l'intelligence artificielle sur ces fonctions support.
Alors, personnellement, je préfère parler d'évolution des métiers plutôt que de remplacement. J'ai du mal à me projeter dans un monde pour
Bien
mes
sûr.
Enfants où l'humain serait remplacé par une machine. Pour moi, c'est plutôt la machine
au service de
l'humain. Bien sûr, il va y avoir de l'automatisation de certaines tâches. Et donc, il y a certains pools de métiers qui vont voir en fait, leur charge de travail se réduire. Mais à côté, il y a aussi de nouveaux besoins, de nouveaux métiers qui apparaissent. Et donc, le challenge pour moi, c'est plutôt d'accompagner avec de la formation, avec de la gestion de carrière, l'évolution des métiers. On n'est pas en train de parler d'un grand remplacement
non,
pour citer quelqu'un.
Non, mais ça veut dire que pour les maisons de luxe, on n'est pas du tout sorti de la problématique sur la formation et sur le recrutement.
Ah non, pas du tout.
Clairement, on est
pas
déjà en plein dedans sur le savoir-faire, mais ça veut dire qu'il y a une couche qui va s'additionner.
Mais Éric Brionne. L'IA peut même donner une plus grande excitation à travailler dans le luxe. Je donne un exemple très concret. Il y a un problème aujourd'hui de recrutement de vendeurs dans le luxe qui est très fort, en particulier de jeunes vendeurs. Justement, le vendeur augmenté par l'IA peut exciter la génération Z à venir dans des postes de vente qui ne sont pas aimés aujourd'hui.
Et on sait qu'on veut tellement la capter, cette génération Z. Frédéric Rose, président et fondateur d'IMKI, c'est votre cœur de métier, hein, l'IA générative, sur mesure même. Cette start-up IMKI, vous vous adressez à qui pour offrir quoi comme service ?
Alors nous, on est vraiment sur l'IA générative, parce que l'IA, l'intelligence artificielle,
exactement,
c'est un vaste champ qui existe depuis très longtemps, qui est utilisé depuis très longtemps. Nous, on est, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le génératif et le génératif d'images, parce qu'il y en a deux, il y a le GPT, un protocole de langage, et les transformers qui sont sur du génératif d'image. Donc nous, on est là-dessus, on travaille spécifiquement à intégrer ça dans les métiers du design. Moi, j'ai un profil Beaux-Arts, ça fait 20 ans que je travaille dans la culture, et on distille de temps en temps des nouvelles technologies dans la création. Et là, pour le coup, IMKI, c'est une société qui est spécialisée sur l'intégration d'IA générative dans le processus de design, de création. Donc on s'interface avec des designers, des stylistes, des modélistes, et on va, nous, améliorer les modèles pour qu'ils intègrent une justesse du trait, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez sur l'étagère, comme Dali ou Midjourney, c'est pas, elles font des images, mais c'est comme si vous avez un très bon illustrateur. Mais demain, si vous lui demandez de faire du style ou du modélisme pur, avec beaucoup de justesse, ça va être plus compliqué, et c'est là que nous, on intervient, en faisant des modèles très, très spécifiques.
Vous revenez de Las Vegas avec une collaboration et une aventure toute particulière avec une marque, The Couples. Quelle est cette aventure ? C'est une collection capsule née de l'intelligence artificielle générative ?
Non, c'est pas
vous
ça.
Vous allez me reprendre. Expliquez-moi, moi j'ai besoin de pédagogie.
C'est
en fait.
Pas ça. En fait, nous, à un moment donné, en tant que start-up, il faut faire ce qu'on appelle un POC, une proof of concept, pour montrer que vraiment ça fonctionne. Au-delà de la capacité créative de l'IA générative, il faut voir son impact sur le process tout du long. En fait, l'IA générative va accélérer le processus de création et donc elle va rapprocher le produit de sa mise en vente de la demande client à l'origine. Donc, si vous avez une tendance, le temps que vous mettiez un produit en boutique, vous allez passer plusieurs mois à le prototyper, etc. Grâce à l'IA générative...
Là, on réduit les coûts et on accède tout de suite à la cible.
Exactement. En fait, vous êtes beaucoup plus proche de la demande client. Donc, effectivement, vous allez déstresser la logistique, le stock, etc.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est l'ensemble de la chaîne. Mais au niveau de la création pure, le process classique, c'est j'ouvre des champs, je ferme des champs, j'ouvre des champs et je ferme des champs. Là, vous en ouvrez beaucoup et vous pouvez faire des choix plus rapidement. Donc, après, une fois que vous avez passé cette phase-là, vous pouvez vous concentrer sur du détail de finition. Et là, cette capsule-là, en fait, elle montre ça entre le brief du directeur de collection et la création des prototypes, il s'est passé 5 semaines à tout casser. Donc en fait, on a eu le temps de spécialiser les IA sur les modèles, parce qu'il faut d'abord les spécialiser sur l'objet, donc Perfecto, Petit Sac, etc. Et ensuite, on fait ce que nous, on appelle des IA d'influence, qui soit vont intégrer un matériel ou une spécification de matériaux, soit un ADN de marque. Donc par exemple, là, dans The Couple, c'est le côté un peu rock, un peu glam. Et donc, on a créé une IA spécifique là-dessus qui va influencer celle qui va dessiner, par exemple, des Perfectos.
Alors, il y a le questionnement à présent entre des marques qu'on verrait un peu plus mass market et le questionnement sur les maisons de luxe, parce que là, on est clairement en train de parler d'un savoir-faire, mais un savoir-faire séculaire, artisanal. Et puis, là, on a l'impression de quelque chose de beaucoup plus uniforme. On quitte un peu la premiumisation. Est-ce qu'on vend son âme au diable en termes d'ADN, si vous voulez répondre, Nathalie Rémy?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'usages de l'intelligence artificielle générative dans les processus créatifs et de développement produit. Je pense qu'une première chose, c'est de bien distinguer la partie créative et l'impulsion créative que peut donner un directeur artistique.
C'est ça.
Par rapport au travail que va faire un studio derrière pour prendre cette idée, la travailler, faire plein d'options et la transformer, en fait, une idée en proposition de produit. Du travail derrière, parce que quand on parle de processus créatif, ben derrière, il faut dessiner très précisément des plans produits qui peuvent d'ailleurs être optimisés. On peut parler de développement durable aussi et d'optimisation pour minimiser les pertes, etc. Ensuite, de pouvoir gagner du temps et de l'argent et du gaspillage en faisant du prototypage avec de la 3D, de l'impression 3D nourrie par un outil de calcul, etc. Donc, en fait, quand on prend l'ensemble du processus créatif, il y a effectivement des étapes qui peuvent être améliorées avec l'intelligence artificielle générative, certainement. Mais il y a des choses qui ne pourront jamais se substituer.
Frédéric Rose, il y a l'enjeu, et on le disait, de baisser les coûts, c'est un argument, d'aller plus loin aussi sur ce fameux volet créatif, et surtout que finalement, et vous en êtes l'exemple, tout le monde peut avancer, pas que les grandes maisons, et il faut avoir cet avantage concurrentiel.
Oui, après, la différence qui va y avoir dans le temps, là, oui. Ce qui va arriver dans pas longtemps, c'est des IA qui vont devenir des actifs de l'entreprise, donc des IA qui vont être personnalisés en interne et qui vont avoir une valeur de la même manière qu'on valorise les artisans sur un savoir-faire, etc. Faites ces IA-là quand vous allez avoir une grande maison qui va créer sa propre IA sur plusieurs produits et vous allez en avoir plusieurs. Il n'y aura jamais une IA dominante, il va y en avoir beaucoup en fonction de secteur, en fonction de métier, etc. Et en fait, là, vous allez augmenter un petit peu la qualité de prestation parce que pour le coup, la seule IA qui pourra faire tel ou tel travail, vous allez la trouver dans telle ou telle maison.
Donc, on va faire évoluer en interne des IA spécifiques qui vont être quoi ? Liées au patrimoine artistique de votre client, par exemple. Finalement, c'est développer en intelligence artificielle l'ADN d'une maison déjà existante.
C'est ça, exactement. Alors, vous imaginez, vous avez une cellule créative sur une très grande marque. Et vous vous dites aux nouveaux entrants, il va falloir que tu intègres 200, 300 ans d'histoire patrimoniale historique d'une marque. Bon, c'est monstrueux pour un designer de rentrer là-dedans, de comprendre tous les codes de marque. Mais grâce à l'IA et sa capacité à restituer ça, en fait, elle va pouvoir intégrer plus facilement ces personnes-là et leur donner des clés de compréhension et potentiellement les corriger. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, elle produit, mais elle est aussi capable d'analyser ce qu'elle produit et de créer un dialogue avec le designer qui l'utilise.
Et de nourrir jour après jour cette intelligence artificielle.
Absolument, absolument.
Mais c'est même pas on va, c'est que ça existe déjà. En fait, LVMH a annoncé qu'elle construit son intelligence artificielle. Mais en effet, Challenger aussi, je vous donne un exemple
formidable. Mais on n'est donc plus du tout dans le temps long.
Ah non, c'est terminé. Si, on est maintenant pour un temps long, pour une IA qui va évoluer.
C'est ça, pour tourner un peu, d'accord.
Oui, exactement. Mais c'est aussi les Challenger. Enfin, on le citait, prenez l'exemple de Copernic, voilà, une petite maison dont la tech fait partie de l'ADN vraiment de la maison.
Une caisse de résonance à chaque innovation.
Exactement, ils viennent faire quelque chose d'extraordinaire, un film sur YouTube qui est à chaque fois différent, avec 180 000 combinaisons. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'IA, alors différent comment ? Parce que la fin change, le costume change, mais ça veut dire que, vous voyez, un Copernic et un LVMH, en même temps, ont ce même désir d'avoir leur propre IA. Mais c'est parce que s'il n'y a pas de propre IA, du coup, on perd la différence, la singularité, on n'est plus du luxe.
Mais ça veut dire que finalement, Nathalie Rémy, les grandes maisons ont pris la mesure de ce que ça représentait, se sont lancées dans cette course, même si on a l'impression qu'il y a eu un petit retard à l'allumage quand même.
Je ne sais pas s'il y a eu un retard à l'allumage.
Non, vous êtes sceptique, je peux dire n'importe quoi.
Non. je ne parlerai pas de retard à l'allumage sur l'intelligence artificielle générative, parce que là, c'est parti très, très vite. Presque pour la première fois, à part le Web 3, effectivement, lequel c'était parti très vite aussi, un peu trop peut-être. Oui. Mais effectivement, je dirais plutôt retard à l'allumage sur tous les sujets technologiques d'une manière générale.
Oui.
Le métier d'une maison de luxe, ce n'est pas la technologie.
Oui. D'accord. Et c'est pas la lutte contre la contrefaçon, la traçabilité, etc. C'est des briques qu'on a laissées un peu.
Mais il y a tellement d'opportunités qui n'ont pas été saisies, je dirais, sur les 20-30 dernières années d'utilisation des nouvelles technologies. Dans l'étude annuelle que Bain fait avec le comité Colbert, où on fait un baromètre un petit peu de l'adoption des nouvelles technologies, dans l'étude de l'année dernière, on a bien vu que le taux d'adoption à l'échelle par les maisons de luxe, membres du comité, de toutes les nouvelles technologies, je ne parle pas que d'intelligence artificielle, ça peut être du RFID, ça peut être etc., était extrêmement bas. Alors, sur les technologies historiques, c'est vrai qu'il y avait un ticket d'entrée en termes de niveau d'investissement qui était tel que seuls les grands pouvaient se le permettre. Et donc, tout le reste de l'industrie était un petit peu en train d'attendre et de regarder. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle générative est très accessible. Et donc, même les plus petites maisons peuvent se lancer. Et du coup, y a un effet d'engouement et d'entraînement où et les grands et les petits avancent en même temps. Et donc, ça donne une sorte de foisonnement d'innovation et de POC.
Puis, un renouvellement de talent. Je prends un exemple. On a Frédéric Arnault. Frédéric Arnault, il a travaillé 6 mois chez Meta à l'intelligence artificielle. J'ai échangé beaucoup avec lui sur la question de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une culture aussi qui est rentrée dans les maisons, dans les équipes aussi, avec un appétit assez incroyable.
Donc tout cela va quand même nourrir l'unique et l'expérience, puisque c'est un peu ça l'enjeu, toujours, pour les maisons de luxe.
Toujours. Ils sont parfaitement conscients de leur singularité, ils sont aussi parfaitement conscients des menaces de l'IA par rapport à cette singularité, tant en termes c'est d'ADN, ça. Mais aussi de remplacement, soyons clairs. Et c'est pour ça que finalement, je trouve qu'il y a un message intéressant, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes étudiants, c'est que une IA générative, oui, vous pouvez faire une IA générative, votre IA générative, vous le faites pour 20 euros par mois, bon, c'est un investissement, mais quelque part, vous voyez tout à fait, c'est votre première main à vous. Donc, il faut s'habituer à travailler. Et le luxe dit souvent que c'est l'aiguillon créatif. Ça permet d'être plus créatif, mais pas se reposer sur ses lauriers.
Frédéric Rose, vous voyez déjà cette course effrénée, donc vous, par rapport à vos feuilles de route, à vos clients, à celui qui va avoir l'avantage concurrentiel sur l'autre et préserver l'unique et l'expérience.
Alors, je suis moins peut-être enthousiaste que mes camarades, parce qu'en fait, le secteur du luxe en particulier a été très surpris par l'apparition des IA génératives. Et pourtant, ça touche directement leur cœur, qui est
la création, la
créa,
la propriété intellectuelle, le patrimoine.
Parce qu'en fait, pour qu'une IA excelle, il faut qu'elle ait des bases de données de qualité.
Bien sûr.
Et évidemment, dans ces maisons-là, c'est ce qu'il y a. Sauf que les IA que vous avez aujourd'hui, Midjourney, Dali, etc., en fait, c'est le fond du tiroir d'Internet. Hein, donc, ça veut dire qu'on n'est quand même pas sur de la super qualité. Et quand les maisons de luxe nous ont interrogés début 2023, ils étaient tous, les sujets, c'était Web3, Metaverse, etc. Hein. Donc, l'IA générative,
pas trop.
Personne ne connaissait. Et l'idée, et il y a beaucoup de data scientists chez les maisons de luxe, mais ils étaient plutôt orientés sur analyse statistique, prédiction, etc., etc. Donc là, ils s'y mettent. Maintenant, ils ont une grosse inertie. C'est des grosses boutiques, très compliquées, très statutaires. Donc, ce type
avec
de
avec prudence.
Voilà. Et puis après, ça touche des métiers créatifs. Donc, à manipuler avec des pincettes, il faut vraiment que ça aide le créatif et que ça ne le remplace pas, etc., etc.
Il faut que ça soit un médium, parce que la plus-value, c'est la création et le créatif, et pas une fin en soi. Donc, on reste sur le médium.
Bon. Ça dépend aussi de la personnalité du créateur. Est-ce qu'il est dans cette culture-là? Vous voyez,
je prenais
Demna de Balenciaga, qui a surpris un peu tout son monde. Vous voyez, la carte de vœux, le premier message, c'était les archives de Cristobal Balenciaga, quatre photos, mais animées, des vraies photos animées grâce à l'IA.
Bon, la bataille de l'IA, ce n'est que le début. Merci à tous les trois. Merci Nathalie Rémy, partenaire luxe chez Bain. Frédéric Rose, président et fondateur d'Imki. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe et auteur notamment de Luxe et Digital, d'avoir été cette semaine avec nous pour défricher un peu ce sujet de l'intelligence artificielle dans Iconic Business. Dans un instant, la Fashion Week à Paris. Les hommes défilent avant le rendez-vous haute couture la semaine prochaine. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Une sélection particulière cette semaine, avec moi notamment Juliette Weiss, et c'est la Fashion Week cette semaine. Les hommes à Paris, automne, hiver, et vous avez retenu les temps forts pour cette semaine.
Tout à fait Audrey, alors on a retenu trois défilés. Le premier, c'est celui de Pharrell Williams.
Encore, on
pour
ne parle,
Louis Vuitton,
de
ne parle que de lui. Alors cette fois-ci, il avait choisi le cadre du jardin d'acclimatation à quelques pas de la fondation Louis Vuitton. Et alors là, c'est un défilé ambiance western, un véritable hommage à sa Virginie natale. On va trouver des pièces extrêmement cow-boy avec des incrustations de pierre. On va trouver des lassos, on va trouver des pièces en cuir. Évidemment, ces larges Stetson, vous savez, ces larges chapeaux qu'on retrouve sur quasiment tous les mannequins, des pierres également qui étaient présentes, et puis des mâles qu'il a retravaillé dans une version beaucoup plus moderne, avec toujours cette empreinte authentique et très western.
Voilà. Bon, il a un peu écrasé la concurrence, mais il y avait quand même d'autres pépites à découvrir.
Il y avait d'autres choses, bien sûr. Alors, il y a un show qui a eu lieu à Milan, c'est le show de Gucci. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a retenu? Puisque c'était le premier défilé masculin de Sabato De Sarno, qui a remplacé l'emblématique Alessandro Michele. Alors, Sabato De Sarno, lui, il préfère, il mise sur des looks très épurés, beaucoup plus
simples. Oui, c'est deux salles, deux ambiances. Hein, avec Vuitton, vraiment, on est sur quelque chose de différent.
Et même par rapport à Alessandro Michele, qui était beaucoup plus exubérant, beaucoup plus dans l'abondance de pièces, chez Gucci de Sabato De Sarno, on est dans quelque chose de beaucoup plus sobre, avec une élégance très, très milanaise, mais avec des longs manteaux, avec des jeux de textures, avec des costumes, des vestes croisées. Bref, un défilé très chic.
Et un dernier défilé qui vous a surpris peut-être.
Alors écoutez, surprenant puisque c'est celui de Givenchy qui n'a plus de directeur artistique. Et oui, c'est la première fois, enfin en tout cas pour cette Fashion Week-là.
Un défilé sans directeur artistique,
et
c'est
oui,
possible.
Et oui, c'est le studio de création en interne de Givenchy qui a produit ce show et c'est une grande réussite. Hein. C'est un jeu de textures, une allure très très chic. Presque un hommage à Hubert de Givenchy avec un style très intemporel, des pièces vraiment d'une élégance rare. On est bien loin de cette abondance de logos, vous savez, de ce tapage.
Oui.
Preuve en est, pour le show, très peu de journalistes invités, pas de VIP, une ambiance intimiste, un entre-soi, et on se dit, mais en fait, c'est pas ça le luxe.
Finalement, l'expérience, merci voilà. Juliette Weiss pour cette sélection. Bon, la semaine prochaine, on passera aux femmes, haute couture, à Paris toujours.
Et demain soir, on a Balmain à 20h30 qui nous propose sa collection hommes.
Bon, un rendez-vous à noter. Merci beaucoup, Juliette. Nathan Cocampo, lui, est de retour de Davos, oui. Mais il s'est mis dans l'air du temps, évidemment, avec de l'intelligence artificielle. Là-bas aussi, il n'y a eu que ça.
Il y a eu que ça. On a beaucoup parlé d'IA à Davos. La semaine a commencé avec la publication d'un rapport du FMI qui explique que 40% des emplois dans le monde seront transformés grâce ou à cause de l'IA dans les prochaines années. Le lendemain, c'est le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui a lui aussi soutenu cette perspective en expliquant investir massivement dans cette technologie que l'on peut comparer à l'invention de l'imprimerie, de la machine à vapeur ou même de l'ordinateur, tout simplement. L'IA va permettre des progrès colossaux dans la santé, notamment, mm-hmm. avec la recherche de vaccins en très peu de temps, avec une détection des cancers ultra précise, dans les transports aussi, avec la voiture autonome, l'industrie lourde. Le luxe, évidemment. J'ai par exemple rencontré dans les allées du forum Nicolas Hieronymus, patron de L'Oréal. Il venait justement d'animer au CES de Las Vegas une conférence autour de la beauté du futur. Ou comment l'intelligence artificielle analyse votre peau et vous propose les meilleurs produits pour la mettre en valeur, un soin et un maquillage sur mesure finalement. Alors au-delà de ce discours général assez optimiste finalement sur l'intelligence artificielle, on a quand même eu quelques inquiétudes au forum économique,
oui,
notamment.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment venant de Sam Altman, fondateur d'OpenAI, la star de l'intelligence artificielle. Je le cite, on ne peut pas affirmer ce que deviendra l'intelligence artificielle, une technologie extrêmement puissante dont il faut se méfier. Le monsieur IA a été très sérieusement mis en garde tous les patrons présents à Davos. La prudence s'impose, il faut aller pas à pas et apprendre du passé, ne pas reproduire un Hiroshima. Les mots sont forts. Sam Altman prend donc de grands débats sur les garde-fous potentiels, des garde-fous pour le monde entier ou par pays. Beaucoup s'inquiètent car leur avenir est entre nos mains et ils ont raison de s'inquiéter. C'est ce qu'a lancé Sam Altman. À nous de prendre les bonnes décisions.
Et merci Nathan, on en parlait tout à l'heure avec Eric Brionne. C'est la créature, Frankenstein, et puis le créateur
ça.
À côté et les règles autour et comment on s'en sert, et notamment pour l'industrie du luxe. On termine cette sélection si particulière avec Eva Jacquot, elle de retour de New York. On voyage beaucoup pour Iconic Business. Une visite notamment chez Tiffany. On est sur la mythique 5e avenue à New York.
Oui. La rénovation de Tiffany en avril dernier, 500 millions de dollars qui ont servi à cette rénovation, le magasin le plus spectaculaire de New York. Alors en tout, 4 ans de travaux.
On découvre vos images justement à l'écran si vous nous suivez
nouveaux,
à la télévision.
Et là, vous devez voir 3 nouveaux étages en verre. Ça fait 10 étages en tout, 10 000 mètres carrés. Alors il y a vraiment de tout dans ce magasin. Là, dès qu'on rentre par exemple, à l'intérieur, on voit des fenêtres sur les côtés qui diffusent des images de Manhattan et qui s'accordent aux saisons. On a aussi chaque étage qui est dédié à un univers précis, à des catégories de produits. On a par exemple les bagues de fiançailles, ce sont les iconiques de la marque, mais aussi des collections spéciales, de l'art de vivre, de l'horlogerie avec un encart dédié à Patek Philippe. Enfin, il y a aussi, en fait, ce lieu, c'est vraiment un lieu culturel. Vous avez des œuvres d'art, il y en a une quarantaine. Dès qu'on entre, par exemple, on tombe nez à nez avec une œuvre de Basquiat. Il y a aussi la mythique robe d'Audrey Hepburn qu'elle porte dans Breakfast at Tiffany's. Et puis, il y a aussi le Blue Box Café. Ça, c'est un restaurant en fait tenu par Daniel Boulu. C'est un Français installé à New York. Et le menu va du petit déjeuner, clin d'œil à Breakfast at Tiffany's, au dîner, en passant par le déjeuner. Il est ouvert tout le temps.
Vous avez traversé la rue sur la 5e avenue, toujours avec un autre joaillier. On n'est pas tout à fait dans le même positionnement, mais là, c'est le plus grand magasin pour Swarovski.
Oui, et ici, place à la couleur. Ce magasin est conçu comme si on entrait vraiment dans une boîte à bijoux. Il y a des couleurs, des couleurs, il y a toutes les couleurs, en fait, du vert,
oui,
du
jaune,
du rose.
Oui, là aussi, on découvre, c'est assez pop quand même. Hein. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
C'est très pop. Et il y a des couleurs, il y a des matières nobles. Il y a du velours matelassé, du marbre rose, de la soie. Et puis, c'est un parcours, en fait. Le magasin est conçu comme si on rentrait dans une exposition, en fait. Il y a aussi l'histoire de la marque qui est exposée avec la maison du créateur, les 128 ans d'histoire, finalement. Mm-hmm. Ça va des Oscars au tapis rouge du Met Gala à Marilyn Monroe. Et puis, il y a aussi des collaborations de la maison avec des artistes. Et puis, c'est vrai que Swarovski emprunte vraiment les codes du luxe, puisqu'il y a aussi un endroit où on ne peut accéder que lorsqu'on a vraiment rendez-vous, et c'est pour regarder les pièces spéciales de la maison. Alors voilà, une vision moderne, et tout ça, c'est le fruit du travail de la directrice créative de Swarovski.
Et un net repositionnement aussi pour aller chasser peut-être sur le territoire de Tiffany pour Swarovski. Merci à tous les trois, Juliette Weiss, Nathan Cocampo et Eva Jaco. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.